Du moins, je ne suis pas la référence au niveau du temps, là, mais je trouve ça agréable. Bonjour Didier, que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que ton entrevue s'est bien passée hier, Didier? J'étais en prière pour cela. Bonjour à la sœur Teresa. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Alors, on va prier. Et puis après ça, on commence notre étude pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cet autre moment que tu nous donnes afin, Seigneur, de nous sustenter dans ta présence, de nous nourrir adéquatement avec ta parole et de recevoir de ta part non seulement les aliments spirituels que tu as préparés de toute éternité pour nous, mais aussi, Seigneur, de passer un temps agréable en compagnie, même à distance, de nos frères, de nos sœurs, simplement avoir l'occasion de se saluer, d'entendre les noms des uns et des autres. Ça nous met un sourire au visage, ça met un baume sur notre cœur qui a souffert pas mal depuis bientôt un an et demi, Seigneur, d'être isolés les uns des autres. Toutes ces matinées qu'on passe ensemble nous permettent de passer un peu plus facilement cette période difficile et d'espérer, de languir jusqu'à un certain point pour ces occasions que tu vas nous donner dans l'avenir, de pouvoir encore nous rassembler dans un même lieu pour te célébrer, pour t'adorer. Alors ce matin, Seigneur, on prie que tu étendes ta main, que tu nous touches, que tu ouvres notre entendement, notre compréhension à ta parole, et que tu nous surprennes, Seigneur, par celle-ci. Non pas, Seigneur, par un désir tout simplement de détails croustillants, d'événements, Seigneur, qui sortent de l'ordinaire, mais que tu nous surprennes, Seigneur, par la justesse de l'enseignement d'aujourd'hui pour ceux que nous avons à faire dans cette génération-ci, voire même dans cette journée précise. Alors enseigne-nous, instruis-nous, parle-nous, dis-nous ce que nous avons besoin d'entendre, non pas ce que nous désirions entendre, mais ce que tu sais que nous avons besoin d'entendre. Et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, la majesté, la magnificence, l'adoration et la louange te reviennent à toi et strictement à toi. Nous t'avons prié dans le plus merveilleux des noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, rebonjour à tous pour cette autre bénédiction matinale. Comme vous savez, depuis maintenant 2 semaines pratiquement, on étudie la question des 5 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus dans le chapitre 1er de l'évangile de Matthieu. 5 femmes dont on a eu l'occasion de dire pourquoi elles n'auraient jamais dû apparaître dans la généalogie. Et ça nous amenait à saisir qu'en dépit des circonstances et des situations qui sont nôtres, et en dépit même parfois des faux pas majeurs que nous posons ou que nous commettons, la grâce de Dieu est sans limite, si puissante, si merveilleuse pour nous restaurer et pour nous transformer et voire même nous utiliser dans l'œuvre de Dieu et à l'avancement de son royaume. Donc, on a débuté hier la question de Marie. On va juste relire le verset qui est tout simple dans Matthieu chapitre 1. Et après ça, on va aller dans le chapitre 1 de Luc, puisque le chapitre de Matthieu et le chapitre de Luc sont ces 2 endroits où on parle un peu plus précisément, avec un peu plus de détails, du pourquoi Marie a été choisie et comment elle a été choisie. Et bien entendu, on fera un petit résumé de ce que nous avons mentionné hier pour ne pas perdre ceux qui se joindraient à nous pour une première fois aujourd'hui. Alors, Matthieu, au chapitre 1, le verset 16, Jacob, et ici on ne parle pas du fils d'Isaac, du petit-fils d'Abraham, ça c'est bien des générations plus tard, donc un autre Jacob. Jacob au chapitre 1, Jacob engendra, dans le verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que la présence de Marie dans cette généalogie n'est pas un acquis en soi, dans le sens où la tradition veut nous la présenter de façon pratiquement déifiée, c'est pratiquement devenu un dieu, puisque de façon erronée, l'Église traditionnelle nous enseigne de prier Marie, alors que la Bible, dans aucun verset, on ne mentionne une telle chose. En fait, ce que la Bible nous dit clairement, c'est de ne pas invoquer l'esprit des morts. Et Marie était une femme tout à fait naturelle, de part et d'autre, à 100%. Elle était comme vous, comme moi, une femme, uniquement femme, un être humain, uniquement être humain. Il n'y avait rien de divin chez elle. Alors, lorsque nous prions quelqu'un comme Marie, ce faisant, on invoque un esprit d'un mort, l'esprit de Marie qui est morte. La Bible ne nous enseigne pas qu'elle était une femme exceptionnelle, et parce qu'elle était une femme exceptionnelle, elle serait donc devenue la juste récipiendaire de cet enfant qui allait naître, qu'on appelle Jésus. J'ai déjà expliqué hier qu'on ne pouvait pas aller dans les détails pour expliquer comment il se fait que Marie soit tombée enceinte. J'enlève juste un commentaire qui m'embête un peu. Voilà. Donc, je disais, on ne peut pas expliquer ce que la Bible veut dire dans le technique. Quand on dit « le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte » ou « tu tomberas enceinte », donc, comment ça s'est passé? La seule chose qu'on sait, c'est que notre Dieu a créé l'univers alors que rien n'existait, alors que c'était un vide et un néant, et il a créé tout ce qui est existant encore aujourd'hui. Alors, s'il a été capable de faire ça une première fois au début de la création de l'univers, il est donc tout aussi capable de créer un enfant dans le sein d'une femme qui est encore vierge, qui n'aura pas été conçu par les voies biologiques, naturelles et humaines, il est tout à fait capable de le faire. Ce que la Bible nous enseigne concernant Marie aussi, non seulement son prénom n'est pas un prénom charmant, puisque ça veut dire « amer » ou « rebelle », alors avis à tous ceux qui pensaient appeler leur enfant, leur prochaine fille Marie, ou doubler leur prénom avec cette première appellation de Marie, sachez que ce n'est pas le plus beau des noms qui existent dans la langue hébraïque. De surcroît à cela, on a vu que certains des obstacles qui faisaient que Marie ne pouvait pas être mère du Sauveur étaient tout d'abord qu'elle était vierge, qu'elle a été vierge jusqu'à l'accouchement, puisque la Bible nous dit que Joseph va effectivement la garder avec lui, va la prendre avec lui, mais ne la connaîtrait pas jusqu'à ce que l'enfant Jésus soit né. Donc un obstacle, vierge, donc ne pas être dans la condition pour voir Dieu se manifester, ne pas être dans la condition pour donner naissance. Et de surcroît à cela, sa condition de bassesse qu'on va voir dans Luc au chapitre 1, le verset 48, lorsque sa cousine Élisabeth va faire un oracle prophétique en disant qu'il est effectivement en train de porter le Sauveur en elle, elle va Elle va répondre à sa cousine en lui disant que Dieu est venu transformer sa vie et est venu la chercher dans sa bassesse. Et quand on parle de bassesse, on parle d'indigence, de précarité profonde. On a vu aussi qu'une grâce lui avait été faite, le terme charito, donc être rendu acceptable. Le terme charis veut dire avoir la capacité, avoir le don de faire une chose, avoir les habiletés pour faire une chose. Mais quand on parle de charito, c'est être rendu capable. Si elle a été rendue capable, c'est qu'au départ, elle n'était pas capable. Et cette grâce qui s'est manifestée dans la vie de Marie lui permet d'expérimenter aussi, comme on nous le dit dans le verset 28, dans Luc 1, elle expérimente le fait que l'Esprit de Dieu est avec elle. C'est ce que le verset nous dit, une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi. Et pour nous, c'est donc l'enseignement que Dieu peut nous rendre capables en dépit des circonstances contraires et que le désir de Dieu, c'est d'habiter avec nous, voire même d'habiter en nous, puisque la Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous lors de la nouvelle naissance, nous devenons l'habitation, la demeure du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit-Saint. Trois autres choses qu'on va voir ce matin. Allons dans Luc au chapitre 1, le verset 30. En fait, retournons au verset 29, après que l'ange lui ait dit qu'une grâce lui a été faite et que le Seigneur est avec elle. Le verset 29 poursuit en disant, « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce. Avant, un peu dans la même notion qu'une grâce t'a été faite. Dans la tradition catholique, on nous enseigne que Marie était exceptionnelle. Si elle était exceptionnelle, elle n'a donc pas besoin d'une grâce. Elle n'a donc pas besoin d'être rendue capable. Marie était une personne comme vous et moi, tout à fait 100% humaine, avec toutes les défaillances et avec toutes les fautes qui sont inhérentes à une personne humaine. Et lorsqu'on nous dit qu'elle a trouvé grâce, le terme qui est utilisé, c'est le terme eurisko, eurisko, qui s'écrit en grec, bien entendu, H-E-U-R-I-S-K-O. Je répète, trouver grâce, eurisko, H-E-U-R-I-S-K-O. Et eurisko, lorsqu'on parle de trouver grâce, c'est même pas de l'avoir cherché, d'avoir scruté pour trouver éventuellement quelque part où pouvait bien se cacher la grâce, mais eurisko veut dire tomber sur. C'est comme je marchais, je déambulais, puis tout d'un coup, en bon anglo-saxon, out of nowhere, de nulle part, je suis tombé sur une chose. C'est comme une chose est mise à nos pieds et on trébuche sur elle. On vient balloter lorsqu'on vient frapper sur elle. Et il y a cette notion d'ignorance, il y a cette notion du fait de ne pas être conscient de ce qu'on a trouvé ou de comment trouver ce qu'on pouvait chercher. En fait, Marie n'a pas cherché la grâce de Dieu. Elle lui est juste tombée dessus. Ou elle, Marie, est tombée sur la grâce de Dieu. Et c'est merveilleux pour nous aussi, parce que ça nous ramène dans la réalité même de ce qu'est la grâce. On dit que la grâce est un cadeau non mérité. Mais très souvent, lorsqu'on parle de cette même grâce, on lui affuble malgré tout une espèce de connotation. Oui, c'est un cadeau que tu ne mériteras jamais, mais tu devrais travailler pour. je travaille à cause de la grâce de Dieu, je travaille pour le Seigneur et je travaille à mener une vie qui lui est agréable parce que cette grâce m'a été faite, on m'a fait connaître cette grâce parce que j'ai bénéficié de cette grâce en retour d'avoir bénéficié, d'avoir expérimenté la grâce de Dieu, ça devrait soulever en moi et en toi le désir de servir Dieu du mieux qu'on peut et du meilleur état qu'on peut avoir. Mais la grâce de Dieu n'est pas au mérite. La grâce de Dieu n'est pas un salaire. La grâce de Dieu est un cadeau immérité. Alors si cette notion de grâce s'applique aussi dans la vie de Marie, ça veut donc dire que cette Marie, cette jeune femme vierge, fiancée à Joseph, qu'elle ne méritait pas la grâce de Dieu. Sinon, ce n'est pas la grâce, c'est une rétribution, c'est un salaire, c'est une récompense, alors qu'il est très clair dans la parole de Dieu que ce qui est donné à Marie est une grâce. Marie ne méritait pas de porter en son sein celui qui était le Seigneur et le Sauveur de toute éternité. Elle a trouvé une grâce. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous permet de iorisco aussi. Il nous permet de tomber sur sa grâce. Vous savez, ces occasions de petits clins d'œil qui viennent du ciel, où une chose inattendue survient et vous dites, c'était effectivement le Seigneur qui l'a préparé pour le bon moment, pour le bon temps, pour la bonne circonstance. Je ne me rappelle plus qui parlait de cela il y a quelques jours suite à un enseignement, mais la personne avait cette conclusion. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre il y a deux dimanches lorsque j'ai parlé effectivement de ces cinq femmes de façon plus rapide lors de la prédication du dimanche matin. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit par la suite pour me dire que cette prédication était venue changer même sa pensée par rapport à sa propre naissance, par rapport à sa propre conception qui avait été faite dans des circonstances ou qui était survenue dans des circonstances terribles. Et ça lui permettait de faire la paix avec sa propre naissance. Et ça, c'est le genre de clin d'œil que Dieu nous fait à l'occasion où il nous permet dans notre cheminement d'avoir ce genre de petites expériences qui peuvent être anodines aux yeux des uns et des autres, qui peuvent être banales aux yeux du Kidam qui nous regarde aller, mais on sait du plus profond de nos cœurs que ce qui vient de se passer ou ce qui se passe à ce moment-là était tout simplement un merveilleux et grandiose clin d'œil de la part de Dieu, ce clin d'œil qu'on avait besoin tout simplement pour qu'il nous rappelle qu'il est avec nous et qu'il nous conduit. Et dans le cas de Marie, c'est effectivement ce qui se passe, ce clin d'œil de Dieu, un clin d'œil majeur, vous allez en convenir avec moi. On vient de t'annoncer que tu es vierge, que tu vas malgré tout porter un enfant et que cet enfant-là va être le sauveur du monde. C'est tout un clin d'œil. Mais c'est le genre de grâce que Dieu veut aussi faire avec toi et avec moi. Je me rappelle lorsque mon médecin principal, le chirurgien duquel je vous ai déjà parlé à quelques reprises, m'a demandé de participer non seulement à une vidéo, mais de surcroît à cela, de participer aussi à un gala pour la fondation concernant le département à l'hôpital avec lequel j'étais traité, et que ça m'a permis de rencontrer des gens, mais des gens haut placés dans la société. Et lorsqu'on est sorti de l'hôpital avec Daphné, la seule chose qu'on a pu se dire, c'est que ça prenait tout ce parcours-là pour en arriver là, pour cet instant où j'aurais accès à certaines personnes à qui je n'aurais jamais eu accès. Et lorsqu'on est allé au gala, j'avais des hauts placés de la société qui étaient autour de moi et des gens qui venaient me voir tout simplement pour me dire « Tu as été le clou de la soirée, merci pour ton témoignage. » Me disaient, même si je ne crois pas que ce sont des chrétiens, mais me disaient « Tu as été une bénédiction pour nous. » C'était un clin d'œil qui venait de la part de Dieu. Cette infirmière que je ne connaissais pas, qui me dit qu'il va prier pour moi, et quelques heures plus tard, j'apprends que c'est l'épouse du médecin de Daphné, qui est chrétien et qui prie pour nous avec son épouse depuis déjà 30 ans, mais je n'avais jamais connu son épouse et j'aurais jamais pu penser que cette infirmière qui devenait mon infirmière, de façon totalement inattendue, était en fait un clin d'œil que Dieu me faisait pour me dire, regarde Florent, j'ai préparé cet instant-là de toute éternité pour toi. Tu viens trébucher dessus, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai préparé pour toi. Et Dieu veut faire ce même genre de clin d'œil pour toi, pour moi, encore aujourd'hui. C'est ce clin d'œil qu'il a fait à Marie. Non, Marie ne méritait pas ce clin d'œil. Non, je ne méritais pas les différents clins d'œil que Dieu m'a fait tout au long de mon périple. Mais Dieu veut encore aujourd'hui nous faire des clins d'œil. Troisième point ce matin, donc premièrement, trouver grâce auprès du Seigneur, donc tomber sur une grâce que Dieu a déjà disposée là devant nous et qui nous attend de toute éternité. Troisième point, lorsque Marie va expliquer qu'elle accepte la volonté de Dieu, voici ce qui va se passer au verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. L'ange vient de lui dire, « Une grâce t'a été faite, la grâce de Dieu est avec toi, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, il est avec toi. » Tu vas porter un enfant qui sera le Messie. Et elle va répondre, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » La réponse de Marie à la grâce de Dieu, ça a été, « Je suis la servante du Seigneur. » Certains veulent expérimenter la grâce de Dieu pour pouvoir faire la fête. Certains veulent expérimenter la liberté de Dieu pour pouvoir faire n'importe quoi. La Bible nous dit de ne pas prendre la grâce comme une raison ou une avenue pour pécher. La grâce, en fait, en ayant expérimenté la grâce et en ayant compris que cette grâce nous est venue par la mort du Messie, par la mort du Sauveur, ça devrait plutôt nous susciter une introspection, une remise en question et une prise de décision quant à servir Dieu de la meilleure façon qui soit et avec la vie la plus sanctifiée qui soit. Et Marie va dire, ma réponse à cette grâce qui est faite, c'est « Je suis servante du Seigneur ». Et le terme qu'elle va utiliser, c'est le terme « doulé », D-O-U-L-E, D-O-U-L-E, pour servante du Seigneur, et doulé, si on devait le traduire dans la langue contemporaine, dans un français contemporain, doulé voudrait dire esclave. Donc la réponse de Marie à la grâce qui lui est annoncée, à la grâce qui lui est faite, à cette grâce sur laquelle elle trébuche, sa réponse, c'est « Je suis esclave du Seigneur ». Je me mets esclave de Dieu. Je me mets au service de Dieu. Je me mets à la disposition de Dieu. La grâce de Dieu devrait, chez toi et chez moi, susciter une disposition au service. Je crois que plus on saisit quelle a été cette grâce qui nous a été faite, plus on saisit notre statut d'hier, de pécheurs condamnés, condamnables, destinés à la mort éternelle, graciés par amour et par bonté par notre Sauveur, je crois que ça devrait susciter chez moi et chez toi un désir plus ardent encore de servir Dieu. Voilà pourquoi je reviens si souvent tant sur la question de la grâce que la question du service, parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. La pensée humaine, la nature mauvaise de l'homme fait en sorte qu'à un moment donné, on a ce sentiment, bon, je t'ai assez dit merci, je vais pas te dire merci pour le restant de ma vie. On applique ça aux gens qui nous entourent, on nous fait on nous accorde un bienfait, puis on dit merci pendant un certain temps, on est redevable, puis il semble qu'après ça, on s'y fait, on s'y habitue. Ça devient normal d'avoir reçu jadis cette grâce et on passe à autre chose en disant j'ai assez rendu ce qui devait être rendu par rapport à la personne qui m'a fait du bien, je lui ai été assez reconnaissant et assez poli et après ça on passe à autre chose. Mais cette attitude mauvaise qu'on a, on l'applique très souvent avec Dieu aussi. On lui rend grâce pour le pardon qu'il nous a accordé au tout début de notre marche avec Dieu. Et puis à un moment donné, il semble qu'on tombe dans une espèce de routine, dans une espèce de relation d'habitude avec Dieu, qui fait en sorte qu'on n'est plus nécessairement impressionné par la grâce qui nous a été faite, par le salut qui nous a été offert, alors que si ça restait bien ancré en moi. Et voilà pourquoi Paul va constamment revenir à la petitesse de sa personne. Je suis le moindre des apôtres, je suis le plus grand des pécheurs, je suis celui qui méritait le moins la grâce de Dieu, et pourtant Dieu m'utilise et Paul va donner sa vie au service de Dieu, sachant comment il a été gracié. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu en es rendu concernant la grâce de Dieu. Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'impressionne encore. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'allume encore au plus profond de toi. Mais si la grâce de Dieu ne t'impressionne plus, tu es vraiment en danger. Si la grâce de Dieu ne vient plus illuminer tes pensées, ne vient plus réjouir ton cœur, ne te laisse pas dans cet état de contemplation par rapport à Dieu et d'émerveillement par rapport à Dieu, à ce moment-là, tu es effectivement mon frère en danger, tu es ma sœur en danger. La grâce de Dieu ne devrait jamais être prise pour acquis. C'est mépriser même comment cette grâce nous a été accordée. Quand je regarde la grâce de Jésus qui me pardonne, je ne peux pas le dissocier de comment cette grâce est manifestée à travers son corps brisé, à travers son sang versé, à travers la mort injuste qu'il a dû payer pour notre justification. Est-ce qu'on peut vraiment tomber dans une habitude, dans une relation d'habitude avec Dieu, dans une relation de normalité avec Dieu? Je veux être impressionné. Je veux être étonné, je veux être ébranlé à chaque fois que je pense à la grâce. Et je veux répondre à cette grâce par un désir encore plus constant, en grandissant même, de servir Dieu. Marie va dire, je suis doulée de Dieu, je suis esclave de Dieu, ou dans une traduction plus moderne, je suis servante de Dieu, mais ça veut littéralement dire que, étant donné la grâce qui m'est faite, que je ne mérite pas, ma réponse par rapport à Dieu, c'est je serai ton esclave. Un peu comme Josué l'enseignait qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines, Josué qui dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit l'Éternel, soit les dieux que vos pères ont servis, soit les dieux que les Amoréens ont servis, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Étant donné la grâce qui nous a été faite de rentrer dans Canaan, je décide que je servirai. Marie va avoir la même réaction bien longtemps plus tard. Étant donné la grâce qui m'est faite, je me positionne comme esclave de Dieu. Et dernier point, elle va dire dans cette même phrase-là, au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Non seulement c'est je suis esclave de Dieu, mais de surcroît à cela, c'est qu'il en soit fait selon ta parole. Ça, c'est une traduction bien longue pour un mot que vous connaissez bien qui se dit Amen. Amen veut dire que ta volonté soit faite ou qu'il en soit ainsi. La réponse de Marie, c'est « Je suis servante, je suis esclave à cause de la grâce qui m'est faite. Amen. Qu'il en soit ainsi. » Qu'il en soit ainsi quoi? Qu'il en soit ainsi de la grâce que Dieu veut déverser sur moi. Qu'il en soit ainsi de mon statut qui débute aujourd'hui d'esclave de Dieu, de servante de Dieu comme réponse à la grâce. Qu'il en soit ainsi quant à la volonté parfaite de Dieu. La grâce devrait susciter deux grandes choses chez toi. Oui, la reconnaissance et oui, la joie. Mais aussi une réponse tangible, une réponse palpable qui est « Je servirai Dieu et j'embrasse la volonté de Dieu. » Une disposition au service et une disposition à la volonté de Dieu. Es-tu du genre qui dit à Dieu « Oui Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, pour les raisons qui sont les tiennes, je ne m'y oppose pas, je ne questionne pas, j'accepte pleinement. » Es-tu de ce genre de personne-là? Ou es-tu du genre « Ben Seigneur, j'aimerais que tu me l'expliques. Je veux comprendre pourquoi tu demandes telle chose. Et Seigneur, laisse-moi arriver à ce point-là où Seigneur, je préférerais plutôt faire ceci ou faire cela, ou sinon je voudrais plutôt, Seigneur, que tu modifies un peu. » Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude dans tes paroles? Oui. Quelle est ce que révèle ta pensée profonde? Et n'oublie pas que Dieu sait très bien ce que tu penses. Certaines personnes ont les paroles qui semblent approuver totalement la volonté de Dieu, mais lorsque le Seigneur regarde à l'intérieur du cœur, il se rend bien compte que la disposition n'y est pas. Tu sers Dieu comme si c'était un tordage de bras ou un tirage d'oreille. Quelle est ton attitude? Marie va dire, « Seigneur, je comprends pas comment tu vas faire ça. Je suis vierge. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Je ne suis pas dans les conditions pour que tu le fasses. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Je suis dans une condition pauvre. » Mais qu'il en soit fait selon ta volonté, je suis ton esclave. Alors, quelle sera la réponse que tu vas donner à Dieu par rapport à sa volonté et à ses plans? Quelle sera ta réponse par rapport à la grâce qui te permet aujourd'hui de prétendre au salut et à la vie éternelle avec Christ? Quelle sera ta réponse? Marie a été cet exemple d'une femme qui apprend à connaître la grâce de Dieu et qui y répond avec plénitude de cœur et avec une embrassade face à la volonté de Dieu. Alors, prions. Seigneur, encore aujourd'hui, un enseignement important et profond par rapport à notre réponse à la grâce, par rapport à notre réponse au salut, par rapport à ces clins d'œil que tu nous fais régulièrement dans nos vies. Tu sèmes quelque part de toute éternité un clin d'œil qui nous attend. Et à un moment donné, on tombe dessus et on s'en réjouit. Mais ces grâces que tu nous fais devrait susciter chez nous une réponse. Et je prie, Seigneur, que cette réponse, pour ma propre vie, parce que je ne peux qu'engager que ma propre petite personne, mais je prie qu'il en soit de même auprès de ma sœur et puis auprès de mon frère aussi. Une réponse, Seigneur, qui te dit, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Qui te dit « Je suis ton serviteur », qui te dit « Je suis ton esclave ». Seigneur, on est confronté avec la réalité de notre état. On est confronté avec des questionnements profonds par rapport à notre propre attitude, par rapport à toi, à tes demandes et à ta volonté. Je prie, Seigneur, de pouvoir répondre quand tu veux, comme tu veux, où tu voudras, pour les raisons qui sont les tiennes. Je dis oui. Et je prie, Seigneur, de ne pas subir ta volonté, de ne pas avoir l'attitude de celui à qui on tord le bras, on tire l'oreille, mais vraiment, Seigneur, d'avoir cette attitude de serviteur volontaire, dévoué, engagé, délibérément. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. On continue demain avec notre étude. Toujours sur Marie, on va prendre cela sous un autre aspect demain. Donc, on se retrouve demain matin, 8h30. N'oubliez pas, on est mercredi. Donc, à 19h, il y a le pasteur Sergio qui vous convie à notre étude biblique pour ce soir. Donc, 19h ce soir, étude biblique avec le pasteur Sergio. Alors, d'ici demain, que Dieu vous bénisse. Pensez à votre réponse à la grâce de Dieu et à sa volonté. Pensez-y et répondez-y, j'espère, avec une bonne disposition. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve demain. Au revoir tout le monde.